Ce balado parle du Québec, des régions et plus particulièrement de chez nous, la Côte-Nord. Ici, on interpelle ceux qui habitent et qui s'activent. On aborde ensemble enjeux, actions et pistes de solutions. Je suis partie à la rencontre de ces citoyens engagés dans leur entourage, pour leur communauté. Ces gens inspirants qui font de notre région ce qu'elle est aujourd'hui. À vous tous, merci. Je m'appelle Émilie, vous écoutez La Voix des Régions. Pour ce premier épisode, il m'est paru évident d'aller sonner à la porte de Mélodie pour discuter de l'alimentation en région. Ensemble, on parle d'agriculture, du défi de rentabiliser notre production et de repousser les limites du climat, mais aussi on parle d'autosuffisance alimentaire et du rôle de chacun pour cet enjeu. Bonjour à Mélodie, merci d'avoir accepté cette petite interview. Mélodie, tu es directrice chef de l'exploitation agricole La Coopérative Gaïa, qui est une ferme maraîchère, ici à Pointe-aux-Outardes. Bonjour à toi.
Merci, bonjour Émilie.
Avant de commencer, si je te dis la voix des régions, qu'est-ce que ça t'évoque?
La voix, je l'entends en voix comme tracé, trajet. Je trouve ça intéressant parce que souvent, on entend le sens de voix comme l'organe qui nous permet de s'exprimer de façon auditive, je pense que de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser aux régions, puis on commence à avoir une tribune, fait que je trouve ça intéressant. Fait que je pense que c'est une voie pour s'exprimer, pour un peu indiquer vers où on s'en va.
Oui, c'est pas mal ça, t'as pas mal ciblé un peu l'intérêt de ce podcast-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est ta voix qu'on veut entendre sur la région ici, la région de la Côte-Nord. Alors, avant de rentrer vraiment dans l'enjeu qui te concerne, qui concerne aussi la Côte-Nord, afin de mieux te connaître, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire, d'où tu viens? Quel a été ton chemin pour en arriver là aujourd'hui?
Bon, en fait, moi, je suis native d'ici. Je suis native de la Côte-Nord. Fait que j'ai vraiment cette région-là qui est à cœur pour moi. Mes racines sont ici. Je me suis promenée beaucoup à travers le territoire canadien pour explorer un peu les facettes, les différentes facettes de l'agriculture sous toutes ses formes, la biodynamie, la permaculture, le bio-intensif, un petit peu partout. Voilà, moi c'est ça, j'étais intéressée par le travail manuel, l'agriculture, l'aspect aussi social, l'aspect communautaire, collectif m'intéressait beaucoup. Et je suis allée, j'ai voyagé, j'ai travaillé sur des fermes, pendant 3 ans, avant de venir me réinstaller ici chez moi, parce que la famille m'appelait. Alors j'ai fait un retour ici, puis je pense qu'étant native d'ici, c'était incontournable pour moi de revenir dans ma région, pour nourrir mon monde, puis aussi parce que je suis une fille de bois, j'ai besoin d'être dans la forêt boréale, j'ai besoin d'avoir un territoire, un terrain de jeu vaste, j'ai besoin de faire du canot, j'ai besoin de faire de la chasse. Fait que c'était important pour moi de tout ce que j'ai acquis comme connaissance en agriculture, de revenir la porter ici, puis de l'appliquer. Puis au départ, ça n'a pas toujours été facile parce que je suis allée parfaire mes connaissances un peu plus au sud. Puis quand je suis revenue ici au nord, il y avait très peu de personnes qui faisaient du maraîcher. Fait que c'était de revisiter des notions qui pour moi m'apparaissaient simples. Puis de retour ici, devenait un petit peu plus compliqué, les enjeux étaient un petit peu plus compliqués vu qu'on était en région un petit peu plus nordique.
Super, donc t'es revenue t'installer ici, à Pointe-aux-Outardes directement?
Oui, au départ j'étais assez ouverte. Peut-être j'avais regardé pour Ragnaud à un moment donné, puis finalement c'est vraiment Pointe-aux-Outardes qui m'a appelée parce que la communauté ici est extraordinaire. On a la proximité du bord du fleuve, puis les terres sont belles.
Et en fait, vous avez dû innover quand vous êtes arrivé, quand vous avez parti la coopérative Gaïa, parce que c'est pas pareil justement que le sud, l'agriculture ici. Vous avez dû relever sûrement pas mal de défis en fait en créant cette coopérative-là. Et pourquoi une coopérative? C'est quoi la différence avec une ferme agricole, une entreprise classique qu'on a l'habitude de retrouver?
J'avais envie de travailler en équipe. J'avais vraiment envie de mobiliser un maximum de gens autour de ce projet-là. J'avais des amis qui étaient dans différents domaines, puis je voulais créer une microéconomie. Moi, l'économie m'intéresse beaucoup. La façon dont on répond aux besoins de la population m'intéresse énormément, puis je trouvais ça important de rassembler autour d'une même table, autour d'un même projet commun, différents intervenants dans différents aspects du milieu, que ce soit des consommateurs, des producteurs, puis des consommateurs dans... J'avais une amie à cette époque-là qui avait l'Antipasto, qui était une épicerie fine, puis on avait des convergences communes pour créer une entreprise qui répondait aux besoins de tous ses membres, mais qui les besoins sont variés. Les besoins d'un membre travailleur ne sont pas les mêmes qu'un membre producteur, ils ne sont pas les mêmes qu'un membre consommateur. Ce qu'on voit en général dans les lois du marché, c'est le consommateur qui tire la couverture de son bord pour avoir un produit au moins cher possible et le producteur qui, lui, veut vendre le plus cher possible. Puis, la meilleure façon d'être équitable, je pense, c'est d'asseoir ces gens-là autour d'un même projet, d'une même table, et d'avoir des bonnes négociations pour qu'ils comprennent les enjeux de chacun de part et d'autre pour arriver à un équilibre. Puis c'est un peu ça que Gaïa veut dire, en fait, hein? C'est l'harmonie et l'équilibre, l'homéostasie. Fait que c'était vraiment de créer quelque chose qui était très organique et qui tend toujours vers l'équilibre.
Vous avez créé un peu cette synergie-là entre ces différents acteurs, ces différents membres du territoire. Ça fait combien de temps de ça, Gaïa, que ça existe?
2008, on a été constitués, puis depuis 2007 que je travaille sur le projet. J'ai pris un an pour monter vraiment le projet, puis en 2008, on était constitués, on commençait à faire les premiers paniers.
Ok, 2008, ça vous a laissé le temps de grossir aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces défis-là et ce pourquoi la coopérative a été créée, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a été relevé? Est-ce que vous êtes sur la bonne lignée, la bonne lancée?
Chaque année à la fois, chaque bouchée à la fois, mais oui, je suis satisfaite de... Je suis satisfaite de la réponse aussi des gens du milieu. On est vraiment très bien supporté par les gens du milieu. Puis, je pense que le fait aussi qu'on soit une coopérative, ça crée un sentiment de fierté collective, ça crée un sentiment d'appartenance. Puis, je pense que nourrir les gens, c'est à la base. Ça devrait être, enfin, à la base d'une économie. Puis, de répondre à ce besoin-là d'une façon collective, pour moi, ça fait plein de sens. Et puis... J'ai encore plein de choses que je veux faire. Après 12 ans à Gaïa, il y a encore tellement plein de choses à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, à chaque pas, il y a des gens qui viennent se greffer au projet puis qui viennent mettre un peu l'épaule à la roue pour faire avancer encore ce projet commun-là.
Ok, et alors vous nourrissez, ça représente combien de personnes, de familles que vous arrivez à nourrir finalement en termes de chiffres?
Cette année, en 2020, on avait 150 paniers par semaine. Donc, 150 familles qui venaient chercher leurs paniers de légumes. Puis, on fournit aussi des restaurateurs, puis des détaillants. Fait que je pense que c'est sûr qu'on nourrit plus que 150 familles, étant donné qu'on distribue chez les restaurants puis les détaillants. Mais on cherche à grossir. L'année prochaine, on va encore aller chercher une bouchée de 50 paniers supplémentaires. Fait qu'à chaque année, on va aller chercher un 50-100 paniers supplémentaires pour arriver à combler la demande. Parce que présentement, on ne comble pas toute la demande, mais en même temps, il faut travailler le marché. J'aurais pas été capable de vendre 250 paniers il y a 2-3 ans. Je pense que c'est une demande qui se crée.
Les gens veulent consommer local encore plus qu'avant.
Ben après la pandémie, oui, tout à fait. Mais avant la pandémie, des fois, c'est un petit peu plus dur de faire comprendre aux gens la valeur des choses, la valeur du local. Souvent, on est des consommateurs d'une économie globale. Alors, on analyse le produit par sa valeur financière actuelle. Alors, si j'achète une tomate, je vais faire un choix qui est financier, puis je vais considérer, bien, cette tomate-là, il y a 2,50 qui sort de ma poche, alors que l'autre à côté, il y a 1$ qui sort de ma poche. Et souvent, les consommateurs vont faire un choix assez simple en disant, bien, je vais acheter celle à 1$, puis je vais sauver 1,50$. Mais ceux qui achètent celle à 2,50, c'est un investissement, en fait, qu'ils font. Parce que si on achète une tomate, ben, j'ai oublié de dire que celle à 2,50 était de production locale et biologique, mais à chaque fois qu'on fait des choix comme ça en tant que consommateur, on investit dans notre avenir, on investit dans notre économie, puis on investit dans notre communauté, puis dans notre économie de besoin, une économie pure.
Donc, tu mets, en fait, le consommateur met du sens dans ses achats quand il va choisir d'encourager l'entreprise locale qui va lui permettre de subvenir à ses besoins alimentaires. Et vous, vous faites principalement du maraîchage à Gaïa. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cultiver ici sur la Côte-Nord? C'est quoi qui différencie vraiment
Je pense qu'il n'y a rien vraiment qu'on ne peut pas cultiver.
OK.
Mais d'une façon rentable, il y a plein de choses qu'on ne peut pas cultiver. Parce que c'est vrai qu'on peut cultiver du maïs, mais est-ce que c'est rentable de cultiver du maïs ici sur la Côte-Nord? J'en doute. Par contre, si on veut cultiver du maïs parce qu'on a envie d'en offrir à notre population locale, c'est tout à fait noble. Mais je pense qu'il y a des produits qui deviennent plus intéressants à produire, mais ça dépend pour quel intérêt on le fait. Si on veut faire une production de masse ou une grosse production qu'on va exporter, le petit fruit est tout à fait un produit très valable de dire on va produire en grosse quantité des petits fruits ici qui sont déjà installés, qui sont déjà indigènes, puis dire on va en faire une domestication, on va en faire une production de masse. Pour le maraîchage, il y a beaucoup de légumes qui poussent ici. Par contre, on a besoin de plus d'investissement. On a besoin d'avoir des infrastructures de serre. On a besoin d'être un petit peu plus ingénieux. Et ça coûte plus cher produire sur la côte nord et produire encore plus au nord que nous. Les investissements sont plus grands parce qu'on utilise des couvertures flottantes puis parce que la période de production est plus courte. Par contre, on met le même effort dans nos champs à préparer nos buts. On met le même investissement de fertilisation. Alors, le produit final va revenir... va revenir plus cher étant donné qu'on va avoir une moins de quantité, moins de volume, puis moins longtemps de récolte en fait. Fait que le défi ici sur la côte nord, c'est vraiment d'arriver à rentabiliser notre production, puis à l'échelonner, à repousser les limites du gel, à repousser les limites du climat pour arriver à produire sur une vraiment plus longue période. Et c'est là qu'on est rendu ici à Gaïa, étant donné que là, cette année, on a une plus grosse équipe de production, une plus grosse équipe de travailleurs qui sont intéressés aussi à avoir un emploi qui dure plus longtemps. Puis les consommateurs veulent des paniers veulent des légumes, de la production fraîche pendant plus longtemps. Alors c'est là qu'on est rendu à dire, ben on veut étirer la saison au niveau de la production qu'on fait à l'extérieur dans les champs en utilisant différentes techniques. Puis on veut aussi repousser la saison d'avant des légumes en conservant mieux nos légumes. C'est là qu'on est rendu principalement là, à Gaïa cette année.
Et en parlant d'étirer cette saison-là, c'est sûr que les conditions climatiques sont plus compliquées sur la côte nord que par exemple dans le sud du Québec. Si on parle d'autosuffisance alimentaire, déjà qu'est-ce que c'est l'autosuffisance alimentaire? Et est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui, sur le long terme, est réaliste à imaginer?
Pour répondre à ta question, l'autosuffisance alimentaire, elle existe depuis des milliers d'années. Les gens faisaient avec ce qu'il y avait à l'époque. Mais là, malheureusement, on est des petits animaux qui ont goûté à plein de choses. Alors, il faut faire des choix. L'autonomie alimentaire, j'y crois beaucoup. À 100%, on peut le faire. Mais à 100%, c'est énormément d'efforts, beaucoup de compromis, puis beaucoup d'organisation. Mais je pense que chacun peut le faire à son échelle, à son niveau. Puis c'est un peu comme le zéro déchet. On ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain de devenir zéro déchet. Il va être découragé, puis il va dire « c'est impossible ». Par contre, si à chaque année, on diminue notre empreinte écologique puis notre production de déchets, ben à un moment donné, on va se revirer de bord au bout de 10 ans, on va dire « ben je suis arrivée à quelque chose de tellement grand, mais une petite bouchée à la fois ». C'est un peu la même chose pour l'autonomie alimentaire. Plus les consommateurs vont chercher une production locale et de saison, plus les producteurs vont être là. Parce que c'est un peu dur pour les gens de dire il n'y a pas de production locale, mais les producteurs vont dire qu'il n'y a pas de production locale parce que les consommateurs ne sont pas là. Fait que c'est vraiment un travail qui doit se faire de part et d'autre, puis de travailler ensemble un peu pour arriver à... C'est comme une danse, là, puis d'arriver à faire une chorégraphie qui va faire du sens pour le producteur puis pour le consommateur. Et là, c'est pour ça qu'en 2020, dans cette pandémie-là, je trouvais ça intéressant de crier haut et fort à mes collègues. Là, levez-vous, on se retrousse les manches, on ouvre du terrain, on ouvre des buts, parce que c'est le temps, les consommateurs vont être là. Et les consommateurs, quand ils vont dire « ben là, on veut se tourner vers le local, soyons présents, ayons des produits à offrir. » Je pense que cette année, on a quand même relevé le défi au niveau de la production, les producteurs de la Manicouagan. Hein? Puis au niveau de l'autonomie alimentaire, ben moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de congélation, je fais beaucoup de transformation, la lactofermentation, je prépare des conserves. Il y a une logistique à avoir, puis il y a une acceptation aussi de certains produits qu'on ne consommera pas en hiver ou qu'on va consommer congelé. Fait que c'est toute une façon de revoir notre alimentation. Oui, ça se peut, ça dépend de l'effort qu'on veut y mettre, puis il faut aller acquérir des connaissances.
Tu nous as un peu parlé, mais pour avoir aussi travaillé avec toi, tu es vraiment quelqu'un qui est hyper déterminée et je voulais savoir c'est quoi en dedans de toi qui t'anime pour être autant à vouloir faire changer les choses ici sur ce territoire? Pourquoi tu te bats pour tout ça en fait?
Parce que c'est chez nous, parce que c'est un territoire absolument magnifique et il y a plein de choses à faire. Puis je pense que les gens de la Côte-Nord, de la Manicouagan ont droit aussi d'avoir des produits frais et locaux, ont droit d'avoir un marché public avec une production intéressante. Puis on est déjà un peu là parce qu'on fait beaucoup de chasse, on fait beaucoup de pêche. Mais c'est vraiment le côté agricole qui manque ou qui manquait. Ben, qui manque encore en fait. Il y en a tellement encore à faire. Puis je me dis, il nous manque pas grand-chose la Côte-Nord pour arriver à une plus grande autonomie alimentaire. Puis moi, j'étais ici quand la route s'est coupée plusieurs fois. Puis c'est le fun parce qu'à chaque fois, on se rend compte de notre fragilité. Puis à quel point c'est important de s'organiser. Puis à tous les fois où... moi, ça m'est arrivé deux fois où on a été pris dans un côté de la route. Puis qu'on a dû, travailler ensemble, un groupe de personnes. Mais à tous les fois, je pense que ça a créé vraiment des étincelles extraordinaires. Puis de voir qu'on est capable. Mais il faut s'organiser aussi en amont de tout ça. Puis préparer les choses. Je pense qu'on est, une région éloignée. J'aime pas dire ça. Mais moi, je trouve ça positif qu'on soit une région éloignée parce que ça nous force à acquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance des grands centres. Puis, on a plein de ressources. On a énormément de ressources dans la forêt, dans la mer. On a des belles terres, il s'agit de les cultiver. Puis de travailler ensemble vers une autonomie alimentaire pour nourrir toute cette belle population-là ici. En fait, on a l'environnement qu'il faut. Il s'agit de le faire.
Incroyable. Merci. J'aimerais ça proposer une petite mise en situation. Si je te demande de fermer les yeux et qu'ensemble, on fait un petit saut dans le temps. On s'en va jusqu'en 2030, donc 10 ans plus tard. Tu ouvres les yeux, tu sors de chez toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens de ta région à ce moment-là? Là, on est rendu en 2030.
J'aimerais ça entendre une éolienne quand je sors de chez moi. On est en 2030, j'ai une maison très indépendante, très autonome. J'ai acquis une autonomie énergétique. Je rentre à la ferme, je rentre à Gaïa et il y a des dizaines d'ouvriers à la tâche qui font différents projets absolument extraordinaires pour une production alimentaire qui est immense, parce que la Côte-Nord va vouloir consommer un maximum de produits qui viennent de sa terre. Puis, des projets qui sont plus communautaires, un transport plus communautaire, une façon de répondre à nos besoins qui est plus communautaire, des réflexes très collectifs pour répondre à nos besoins plutôt qu'individuels. C'est ça que je veux pour le futur, en fait. C'est ça que je veux pour 2030-2040. Que les gens comprennent que répondre aux besoins de la collectivité vient non seulement répondre à nos besoins individuels, mais nous font grandir plus grand que ce qu'on serait si on répondait tout seul à nos besoins individuels. Pour moi, c'est une évidence. Ce n'est pas, en fait, pour plein de monde, puis je comprends pas. Si on peut se rendre là, si je peux aider à ce que, collectivement, on se rende à quelque chose de plus grand que nous, individuellement, ça, c'est mon rêve.
Quel a été le rôle de ces citoyens pour en arriver là? Toi, tu es active dans ton milieu, dans le milieu agricole. Comment les gens qui nous écoutent, en fait, dans ces 10 années-là, nous ont aidés pour en arriver là où on en est.
À chaque fois qu'on répond à un de nos besoins, ou aux besoins de notre famille, c'est se poser la question, comment je peux répondre à ce besoin-là qui va être bénéfique pour toute ma collectivité? Est-ce que mes besoins alimentaires, je peux les répondre en consommant local, en consommant régional, en consommant biologique parce que ça a un impact sur mon environnement? Est-ce que pour répondre à mes besoins de transport, je peux avoir un réflexe qui est plus collectif? Et là, je parle pas nécessairement d'un transport en commun tel qu'on le connaît, les autobus et tout ça. Je pense qu'éventuellement, il va falloir repenser au transport en commun dans des régions, des petites villes comme les nôtres. Et puis, je pense que c'est ça, c'est d'essayer de voir comment répondre à nos besoins pour qu'on ait un moins grand impact, un moins grand empreinte environnementale. Si on pense à notre empreinte écologique, ça va changer notre vie collectivement puis au niveau planétaire. Puis je pense que on a une meilleure conscience aussi. Moi, je pense que c'est très égoïste, ma façon de faire mes choix. je l'ai fait pour me sentir bien. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants. Donc c'est assez égoïste, c'est assez individuel, mais je l'ai fait parce que de faire des choix qui diminuent mon empreinte écologique, ça me fait du bien, je me sens bien avec ça. J'ai pas l'impression d'avoir une lourdeur ou de... Je pense que les gens, ils comprennent juste pas à quel point chaque petit geste peut avoir ou non un impact. Puis de remettre ça dans les mains des gens, c'est un peu utopique. Moi, je suis de celles qui pensent qu'il doit y avoir des lois qui sont votées, des grands enlignements gouvernementaux. Et puis, ça doit, l'exemple doit venir d'en haut. Alors, on aura à faire des choix en tant que société, éventuellement, pour que les décisions qui sont prises pour l'ensemble de notre collectivité, pour notre pays, ça soit des bonnes décisions. Puis après ça, les gens vont suivre les règlements qui ont été mis en place ou les restrictions.
Mais dans un sens, ce que vous faites ici aussi avec la coopérative Gaïa, c'est que vous attendez pas juste que ça vienne d'en haut, c'est que vous aussi vous agissez par en bas et ici reprendre possession en fait du local, devenir acteur de son territoire, dire aux gens prenez votre responsabilité en main, soyez acteur de vos décisions, vous avez toujours le choix. Et par exemple, en consommant local, c'est une des décisions qui vont limiter et réduire leur empreinte écologique.
Mais nous, on doit être là pour proposer une alternative, pour proposer un produit intéressant. Mais si, ça va prendre une aide, ça prend des aides financières, parce que c'est, tu sais, comme je te disais, les fermes du centre du Québec puis du sud du Québec ont peine à arriver. Alors imagine les fermes du nord du Québec. Va falloir qu'il y ait des décisions qui soient prises pour l'ensemble du Québec au niveau agricole. Qu'est-ce qu'on veut pour l'agriculture de demain? Est-ce qu'on veut une agriculture qui est sur l'ensemble du territoire pour nourrir les gens à proximité? Moi, je crois que c'est ça. Alors, on doit s'en aller vers une agriculture de proximité, donc aider ceux qui sont plus au nord et ceux qui ont des situations plus arides. Puis, on doit aussi légiférer d'une certaine façon pour aider les gens à faire des bons choix. En fait, à un moment donné, si les seuls choix qui font du sens sont que des choix qui sont bons pour notre, l'ensemble de la collectivité puis pour l'environnement, on ne remettra pas ça dans les mains des consommateurs. Mais moi, je pense que nous, en tant que producteurs, c'est important qu'on soit là pour dire « Ben oui, tu veux consommer local, tu veux consommer biologique, tu peux, je suis là. » Mais va falloir qu'il y ait plus de producteurs comme nous, puis si on veut qu'il y ait plus de producteurs comme nous, mais ça va prendre plus d'aide. Parce que, malheureusement, l'agriculture, qui est un besoin primaire, qui est se nourrir, c'est un besoin, c'est fondamental, c'est primaire, c'est remis dans les mains de passionnés. Alors, le gouvernement se lave un petit peu les mains parce que c'est un créneau qui peut coûter cher, et puis, il s'est pas mouillé beaucoup, hein, depuis le début. L'agriculture a rarement été vraiment soutenue par le gouvernement ou par l'État. Elle est un peu remise un peu dans les mains de l'industrie puis des producteurs passionnés. Et je pense qu'un secteur aussi primordial que l'alimentation, que l'agriculture, devrait être pris en charge par l'ensemble de la collectivité, par les citoyens, par le gouvernement, par le politique. On peut pas juste remettre ça dans les mains de « Ah ben, il n'y a pas de producteurs agricoles à Fermont parce que personne qui veut le faire. » Mais non, ça va prendre les producteurs à Fermont, ça va en prendre à Schefferville, ça va en prendre partout où il y a des gens qui habitent. Et là, ben, on ne peut pas remettre ça seulement dans les mains de passionnés puis des gens qui travaillent. On travaille extrêmement fort pour à peu près pas de rentabilité, puis on ne parle même pas de salaire. Alors, c'est très précaire et on ne construit pas une société qui est solide sur une agriculture aussi instable et aussi avec un fondement aussi peu fort. Il y a certains secteurs dans l'industrie, comme au niveau laitier, au niveau bovin, où c'est très fort. Mais il y a eu des choses dans le passé qui ont été faites pour qu'il y ait des fondements solides dans ce niveau-là. Mais au niveau maraîcher, au niveau fruitier, c'est carrément laissé dans les mains des producteurs puis dans les mains de certains passionnés qui, au bout de 10-15 ans, sont essoufflés puis ils lâchent la serviette.
Mais j'espère vraiment que ce balado va permettre de porter ta voix des régions sur ce combat-là plus haut, plus loin, pour encourager vraiment un soutien plus fort dans cet enjeu-là qui est primordial et qui devrait être considéré comme un enjeu premier, en fait.
Mais oui, on est une région qui est loin, donc l'approvisionnement alimentaire est difficile. Alors, produisons! Si on a de la misère à s'approvisionner, alors occupons-nous de le faire. Et il y a mille et une façons qu'on pourrait le faire. Ils ne sont pas tous rentables. En fait, c'est ça, c'est que c'est presque pas rentable de faire une production alimentaire ici parce que on doit avoir des serres, on doit avoir du chauffage, on doit avoir plein de choses qui fait qu'on augmente le prix du coût du produit. Mais c'est là que ça va demander un aide parce que c'est pas parce qu'on est justement parce qu'on est loin qu'il faut avoir une souveraineté. Ça, c'est super important. Puis c'est un peu ça qu'on fait Gaïa on a développé dernièrement un créneau qui est un peu un aide à différentes collectivités qui veulent soit se partir une ferme, un jardin collectif, construire des serres, et on va un peu les aider à monter leur projet, à aller chercher du financement, un peu un aide là, un peu structurelle et technique pour les aider vraiment à mettre sur pied leur projet pour une autonomie alimentaire. On travaille actuellement avec un projet à Matagami. Il y a des serres qui sont en train de se mettre sur place à Radisson. Il y a un projet sur la Basse-Côte-Nord. Fait que moi, mon rêve, puis ce que je veux pour les prochaines années, c'est vraiment aider le nord du Québec, la Côte-Nord, à acquérir une autonomie alimentaire qui est plus grande. Et puis, chaque projet, chaque région aura sa solution. Parce qu'il va y avoir une population avec des besoins qui sont différents et il y aura des moyens et des ressources qui sont différentes pour répondre à ces besoins-là. Moi, c'est vraiment l'orientation que je veux prendre personnellement. Je ne veux pas parler pour Gaïa, je veux parler personnellement. Moi, ce que je veux, c'est de plus en plus pousser sur des communautés encore plus éloignées, encore plus nordiques, à acquérir une autonomie alimentaire. Et puis, je vais tout faire à mon pouvoir pour les aider. Puis, on se tourne aussi beaucoup vers la formation. On veut rentrer dans les écoles pour communiquer aux jeunes le goût de bien s'alimenter et de produire leurs légumes. Alors, on a commencé des projets, des ateliers dans les écoles, puis des petites classes vertes, des petits jardins scolaires. J'ai un projet de serre que j'aimerais bien qu'il voit le jour sur une école secondaire. Alors, on travaille à différents projets comme ça pour aider les communautés à atteindre une meilleure autonomie alimentaire et plus de souveraineté.
C'est super inspirant, c'est super intéressant. Merci pour le feu qui t'anime et qui permet de contribuer à tout ça. Je pense que ton étincelle, c'est ça. C'est plus gros qu'une petite étincelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, quelque chose que tu aurais aimé nous dire, que tu n'as pas eu l'occasion?
Non, je pense que je pense que j'ai pas mal tout dit, mais écoute, j'aurais...
T'en aurais à dire encore.
Parce que t'as toute la soirée.
On peut laisser ton numéro de téléphone.
Mais je pense que de l'autonomie, de la souveraineté, peu importe où on est, de répondre à nos besoins, je pense que c'est ça qui est important. Pour moi, l'alimentation, c'était un besoin primaire, puis ça fait tellement de sens qu'il faut y répondre de façon locale. Alors c'est ça mon cheval de bataille, puis c'est là-dedans que je veux travailler. Peu importe où les gens sont, peu importe. Et s'il semble qu'il y a une lacune dans leur région, que ce soit au niveau alimentaire ou autre, ben c'est de devenir des fois des petits porteurs de projets pour créer quelque chose qui va répondre à ce besoin-là qui est manquant. Puis, ouais, je pense que c'est, en fait, moi j'adore semer des graines, alors ouais. Si ça peut semer des graines ouais, dans différentes régions qui ont envie d'acquérir une autonomie alimentaire, je suis présente, puis je vais les aider, ça va me faire plaisir.
Petit coup de com, toi Mélodie, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'en apprendre plus ou de te contacter, est-ce qu'ils passent par... vous avez une page Facebook, la coopérative Gaïa, est-ce qu'ils peuvent directement passer par là?
Ou oui, la coopérative, on a une page Facebook, on a un site web, puis notre numéro de téléphone est diffusé là. Mais c'est ça, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait plein de petites coop Gaïa partout, dans les régions où il n'y a pas de grosses fermes. parce que c'est ça, la coopérative. Nous, on est tout près de 500 membres qui répondent à un besoin commun qui est une production agroalimentaire locale. Si la coopérative a passé le cap des 5, des 10, on est rendu on entame notre 13e saison, c'est parce que c'est une coop, c'est parce que c'est soutenu par un ensemble de membres, un conseil d'administration, des membres travailleurs. C'est plus grand que... C'est tellement plus grand que nous, c'est tellement plus grand que moi, puis c'est ça que je trouve beau aussi.
Donc c'est une formule que vous avez expérimentée qui marche. Donc on souhaite qu'il y ait plein de petites coopératives Gaïa, petites qui deviennent grandes, qui s'étalent un peu de partout. Est-ce que tu aurais, toi, une référence à nous partager? Une émission, un film?
Dernièrement, j'ai écouté The Biggest Little Farm. C'est un film qui a été fait par un jeune couple qui a décidé tout d'un coup de s'orienter vers l'autonomie alimentaire puis la permaculture, puis ils ont racheté un ancien verger de pêche. En tout cas, c'est sûr que c'est pas à côté de chez nous, c'est en Californie, mais je trouve ça quand même inspirant de voir tout le travail qu'ils ont fait. Puis ça leur a pris quand même 7 ans avant d'apprécier le travail qu'ils ont fait. Donc 7 ans, mais c'est ça la permaculture, c'est long. C'est long avant d'atteindre un certain équilibre puis de voir que l'énergie circule puis que ça crée quelque chose de plus grand. C'est ça, The Biggest Little Farm. Sinon, moi j'adore Elliot Coleman qui est comme le père de l'agriculture. Ça me fait rire parce que je suis allée à des formations avec Elliot il y a à peu près 15 ans, puis lui, il disait qu'il faisait de l'agriculture nordique, mais il était au Maine. Alors, je trouve ça très drôle, mais c'est ça. C'est super intéressant ce que Elliot Coleman a pu apporter. Je trouve ça le fun, un peu, ceux qui connaissent pas Jean-Martin Fortier, qui est un peu présentement le porte-parole des maraîchers au Québec. Lui et son équipe ont très bien travaillé pour qu'il se fasse connaître. Il a un poids aussi politique. Il travaille avec la famille Desmarais, donc c'est le fun. Je trouve qu'il faut jouer à tous les niveaux. Puis c'est un peu ce que Jean-Martin fait. Il faut avoir un pouvoir politique aussi pour faire changer les choses. Puis je pense que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de maraîchers dernièrement à se lancer un peu dans l'aventure. Puis j'espère qu'ils vont vouloir rester dans l'aventure.
Oui. On le souhaite aussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin?
J'adore vivre en région, j'adore ma région.
Venez en région!
Oui, mais surtout les gens qui sont ici. J'ai envie que les gens qui sont dans leur région aient envie d'y rester et aient envie de créer un environnement qui est encore plus épanouissant puis qui répond encore plus à leurs besoins. Fait que je suis pas de celle qui dit « Venez-vous-en, les gens de la ville en région! » Je suis pas contre ça non plus, mais je suis plutôt les gens de la région que j'ai envie qu'ils restent.
Reconnectez-vous.
Oui, puis reconnectez-vous à votre région pour vraiment l'apprécier, parce que je pense qu'on s'en rend pas toujours compte à quel point la chance qu'on a d'habiter ici, des fois on voit ce qui nous manque, on voit seulement ce qui manque, tu sais. Moi j'aime ça faire, mettons, de la capoeira, puis il y a pas de groupe de capoeira, mais c'est pas grave au final, parce que je peux partir sur une rivière, un lac, dans le bois, à n'importe quel temps, il y a des choses magnifiques. Ben, demain matin, je vais me lever, puis peut-être je vais créer un groupe de capoeira.
Ah oui!
mais c'est ça, c'est comment...
Ça serait possible.
Comment améliorer notre situation, puis d'apprécier vraiment notre milieu, parce qu'on vit dans une région qui est extraordinaire. Il faut l'apprécier, puis il faut le voir.
Merci, Mélodie.
Merci, Émilie, ça fait plaisir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vos proches et amis. Merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. À très bientôt.